Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Radio Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact pour vous accompagner. Nous sommes de nouveau ensemble pendant une heure aujourd'hui et je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM à Bamako. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a profité de son séjour à Moscou pour nous accorder une interview exclusive. De hauts gradés allemands discutaient de plans d'attaque contre la Russie dans une conversation interceptée par Moscou. Un ancien colonel de l'armée française nous partagera ses analyses. Le Festival mondial de la jeunesse a ouvert ses portes en Russie. Une vice-ministre namibienne nous a livré ses impressions. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. Le ministre malien des Affaires étrangères était récemment en visite à Moscou. Abdoulaye Diop a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov avec lequel il a discuté de perspectives de coopération entre Bamako et Moscou, ainsi que de sujets régionaux brûlants. Nous en avions parlé en détail dans une précédente émission. Monsieur Diop, lors de son séjour à Moscou, a trouvé du temps pour nous accorder une interview exclusive dans laquelle il a évoqué plusieurs thématiques. Je vous propose d'écouter tout de suite le chef de la diplomatie malienne.
Votre visite là, elle rentre dans le cadre des visites multiples entre le Mali et la Russie ces derniers temps. Il y a un certain nombre de projets communs qui ont été annoncés, notamment la construction d'une centrale nucléaire, d'une raffinerie d'or, des projets de transport, chemin de fer, locomotives. Alors, quel est l'état d'avancement de ces projets-là? Et quand est-ce que vous attendez des représentants des diverses sociétés russes pour venir et mettre en œuvre ces projets?
Je crois que dès la semaine prochaine, il y a certains partenaires russes qui viendront au Mali. Et ce n'est pas les premiers. Et depuis que ces échanges ont commencé régulièrement, des délégations russes se rendent au Mali. Mais avant ça, je dois juste vous dire que nous sommes ici dans le cadre d'échanges réguliers qu'il y a entre la Russie et le Mali. Vous savez que le président Guaita était ici pour le sommet de Saint-Pétersbourg qui était sa première sortie internationale. Il a eu des échanges très productifs avec le président Poutine, ce qui a permis vraiment de dresser le cadre de la coopération bilatérale et de la nécessité de la diversifier et de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Février de l'année dernière, nous avons eu aussi le plaisir de recevoir le ministre Sergueï Lavrov au Mali pour encore davantage approfondir la relation bilatérale et partager aussi les analyses sur la situation de la région et la situation internationale. Et depuis, nous nous rencontrions, nous échangeons et cette visite se situe dans le cadre de la continuité de ce dialogue régulier entre nos deux pays pour échanger et partager les analyses et les informations tant sur la situation interne du Mali que sur la situation internationale, mais aussi la situation en Russie et voir comment nous pouvons renforcer le travail en commun et la compréhension de la situation internationale et aussi renforcer la solidarité entre les deux pays parce que sur la scène internationale, nous travaillons aussi à pouvoir rapprocher, à nous soutenir mutuellement. Pour venir précisément à votre question qui est un peu du point de vue de la coopération économique et commerciale. Il est vrai qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est d'élever la coopération économique et commerciale à la hauteur de la bonne qualité des relations politiques, mais aussi au niveau de la coopération sur le plan militaire et sécuritaire. Et il y a des besoins, il y a des possibilités. C'est pourquoi il y a eu des visites récentes de plusieurs ministres du Mali, ministre de l'énergie, ministre du commerce, ministre de l'économie et des finances, qui ont discuté avec les partenaires, qui ont identifié les secteurs dans lesquels il est possible de renforcer cette coopération bilatérale. Je dois aussi rappeler que l'année dernière, nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation, un mécanisme pour renforcer la coopération commerciale, assurer un bon suivi. Et le mois d'avril, une rencontre se tiendra. Nous avons identifié un certain nombre de domaines, le domaine de l'énergie, par exemple, est un domaine crucial aujourd'hui. Si vous voyez la situation au Mali avec le déficit énergétique que nous avons et tout l'impact négatif sur la situation économique du pays, il a été décidé de renforcer ce volet. Effectivement, dans le moyen et long terme, il est décidé d'aller vers la construction de centrales nucléaires pour renforcer le mix énergétique du pays. Mais dans le court terme, en tout cas à court, à moyen terme, pour répondre aux besoins, il est question de mettre en place deux centrales solaires pour pouvoir répondre aux besoins du pays. Et nos équipes sont en train de travailler sur les différents dossiers techniques et le montage financier qui va avec ces projets. Et sur le plan aussi des infrastructures, les chemins de fer, la mise en place de compagnies aériennes, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de documents discutés entre les deux parties pour pouvoir aller vers la concrétisation de ces projets. Ils sont à des stades très avancés aujourd'hui sur ce plan. Donc sur le plan aussi de l'approvisionnement du Mali, il y a eu des pas, livraison de blé, livraison d'engrais, qui constitue une denrée essentielle pour un pays à vocation agro-pastorale comme le Mali, mais aussi livraison de produits pétroliers comme le gasoil. Il y a eu les premières livraisons qui sont arrivées seulement au mois de janvier au niveau de notre pays. Donc c'est dire que sur l'ensemble de ces questions et même sur la question de l'utilisation des technologies spatiales pour pouvoir mieux maîtriser vraiment la dotation du pays, les ressources minières et naturelles qui existent. Et dans le secteur minier aussi, je dois indiquer qu'il y a des compagnies russes qui opèrent déjà au niveau du Mali. Le Mali est un pays minier par excellence, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de minéraux qui existent, à commencer par l'or, où nous sommes le troisième producteur africain. Il y a d'autres minéraux qui n'ont pas encore été exploités. Donc, sur l'ensemble de ces questions, nous voudrions avoir un partenariat renforcé avec la Russie pour profiter aussi de son expérience, de son expertise et aller vers un partenariat gagnant-gagnant. Notre ambition, c'est de pouvoir aller vers une transformation de nos matières premières pour créer plus de valeur ajoutée pour les Maliens.
Excellence, alors cette rencontre en avril, elle se tiendra où? À Moscou ou bien à Bamako?
Oui, je ne suis pas sûr si le lieu a été défini, peu importe, mais je pense que si ça se tient à Bamako, nous serons heureux de recevoir nos amis russes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette première réunion, ce cadre qui est mis en place dans le cadre du cadre de coopération dans le sommet Russie-Afrique pour renforcer la coopération commerciale. De notre côté, ça sera piloté par le ministre en charge du commerce et les autres ministères qui sont impliqués par rapport à ça. Je crois que ça permettra d'assurer un suivi régulier parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs projets qui sont en discussion et ça permettra vraiment de façon régulière d'identifier les dossiers techniques, de voir comment nous allons pouvoir les suivre parce que l'enjeu essentiel, c'est vraiment d'aller vers la concrétisation de ces projets. Il est évident qu'on ne peut pas tout réaliser tout de suite, mais il faut que nous puissions quand même concrétiser certains pendant que nous travaillons à d'autres projets qui sont des projets de moyen et long terme.
D'accord. Et alors, pour le domaine de défense et de sécurité, comment se déroule la lutte contre le terrorisme dans le cadre des efforts conjoints de l'AES et de la Russie?
Nous reconnaissons tous aujourd'hui que le Mali d'il y a 2 ou 3 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il y a eu des progrès considérables en matière de défense et de sécurité et ces progrès ne sont pas venus par accident. Il y a une volonté politique très forte au plus haut niveau de l'État, du président de la transition, du gouvernement, pour pouvoir faire de la sécurité le premier domaine de priorité du pays et qu'il faut aussi, dans le cadre de la vision, changer de paradigme. Mettre le Mali et les Maliens au centre de la sécurité de leur pays, ça veut dire que les Maliens doivent prendre leur sécurité dans leurs propres mains et être les premiers responsables pour cela. Et pour cela, il fallait renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en termes de formation, mais aussi en termes d'équipement. Aujourd'hui, près de 25% du budget de l'État est consacré à ce secteur. Et un pays comme le Mali, nous sommes un pays extrêmement vaste, pas comme la Russie certainement, mais ça fait quand même plus d'1 million 200 000 km². Et nous avions besoin d'équipement notamment le vecteur aérien, la coopération ou la diversification de la coopération militaire qui nous a permis de renforcer notre coopération avec la Russie, a permis de répondre à nos attentes et de renforcer les capacités. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité sur le terrain sont à l'offensive, ont pu enregistrer des succès importants, infliger aussi des défaites aux groupes terroristes. Et beaucoup de localités qui n'étaient pas sous le contrôle du gouvernement le sont aujourd'hui. Et aussi, nous avons pu relever un défi militaire important, c'est que le retrait de la mission des Nations Unies s'est effectué sans mettre en cause l'unité du Mali et son intégrité territoriale. Les forces de défense et de sécurité ont pu réoccuper toutes les emprises militaires laissées par la MINUSMA. Donc, d'un point de vue global, la situation sécuritaire, elle est différente, elle est renforcée. Il y a une amélioration globale. Il y a le retour de certaines populations déplacées ou réfugiées dans certaines localités. Il y a un retour progressif des services sociaux de base. Et pendant que nous faisions cela, sur le plan sécuritaire, nous avons aussi renforcé la coopération avec le Burkina, avec le Niger, avant l'AES. Mais avec l'AES, nous sommes passés à une nouvelle dimension de travail collaboratif de nos forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, sur le terrain, je crois que la menace a changé de camp et nous avons créé une nouvelle dynamique sécuritaire et nous allons continuer à renforcer cela.
Alors, en ce moment, quel pourcentage du territoire malien est sous contrôle de l'État ?
Aujourd'hui, l'État malien contrôle l'entièreté de son territoire national. Il n'y a pas une partie de notre territoire qui est sous le contrôle de forces étrangères, ou en tout cas ou de groupes armés, où il n'y a pas une partie de notre pays où l'armée et les institutions étatiques sont interdites de pouvoir y entrer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Il y a des groupes terroristes, il y a d'autres groupes qui sont actifs. Mais aujourd'hui, l'armée est dans l'offensive et n'est prête à laisser la place à aucun groupe pour pouvoir imposer sa loi. Nous devons assurer la protection de nos populations et nous sommes dans une dynamique offensive désormais. Nous comptons consolider parce qu'il suffit pas de réoccuper ces espaces, mais il faut aussi faire revenir les administrations, la justice, ouvrir les écoles, les centres de santé, bref, apporter les services sociaux de base et le soutien dont nos populations ont besoin. Mais qu'au-delà de ça, il faut aussi comprendre que l'approche militaire elle seule n'amènera pas la solution définitive, qu'il faudra continuer à intensifier nos efforts pour la paix et la réconciliation nationale. Et ces efforts aussi sont en cours aujourd'hui avec la décision du président depuis près de 6 mois d'aller vers un dialogue direct intermalien. Et cette dynamique-là est en place aujourd'hui pour pouvoir permettre aux Maliens de discuter et d'identifier les voies et moyens pour la réconciliation nationale et pour aller vers une paix durable au bénéfice de l'ensemble des communautés et de l'ensemble des populations maliennes. Une dynamique nouvelle qui n'est pas seulement centrée, en tout cas apporter une récompense à ceux qui ont pris les armes. Ils font partie du processus, mais nous voulons un processus beaucoup plus inclusif qui intègre toutes les communautés, tous les Maliens de toutes les localités pour qu'ils puissent identifier ensemble, en tout cas convenir d'une vision pour la paix et la réconciliation dans notre pays.
Bon, Excellence, pour ce dialogue intermalien, alors il y a certains qui dénoncent que ce dialogue n'est pas inclusif vu la non-participation des mouvements qui ont repris les armes. Alors, quel est votre commentaire là-dessus ?
Ce dialogue est un des plus inclusifs que nous ayons eu au Mali, parce que le dialogue est ouvert à tout le monde. Et si vous avez suivi la déclaration du président Guaita lors de la fête de fin d'année, il a indiqué seulement trois questions qui ne seront pas au centre du dialogue. L'unité nationale ne sera pas négociée, l'intégrité du territoire malien ne sera pas négociée, et aussi la laïcité de l'État malien ne sera pas négociée. Qu'en dehors de cela, tout le reste peut être discuté. Donc nous avons des ouvertures. Et deuxième élément, c'est qu'il y a un comité de pilotage de près de 150 personnalités de toutes les communautés, de toutes les régions, de toutes les religions, si vous voulez, et même de la diaspora, qui vont se mettre ensemble pour les termes de référence. Ont été discutés il y a une dizaine de jours. Et je pense qu'aucun Malien, a priori, n'est exclu. naturellement, il appartiendra aux Maliens qui vont participer à ce dialogue de définir les modalités, de faire appel à ce que vous appelez les groupes armés, parce que malheureusement, dans le passé, les négociations se faisaient qu'avec les groupes armés. Ceux qui ont pris les armes, qui constituent une minorité dans nos communautés, même dans les populations touareg, arabes, ou en tout cas, ceux-ci constituent une minorité. Donc, nous sommes conscients que il faut intégrer tous les Maliens. Mais ça fait partie des éléments du dialogue. Le dialogue va décider sous quelle forme, par quel moyen, par quelle approche d'autres Maliens qui ont fait d'autres choix, soit de rejoindre des groupes terroristes ou des groupes séparatistes, peuvent faire partie. Ça, c'est pas une décision du gouvernement. Je pense que le dialogue sera souverain pour pouvoir identifier si ils estiment que des Maliens doivent être écoutés et sous quelle forme, ou si on a besoin d'autre chose, nous allons l'indiquer dans ce cadre-là. Mais je dois vous dire que les Maliens de toutes les régions du Mali sont partie prenante et je crois que les jeux sont ouverts. Il appartiendra aux Maliens de définir ce qu'ils souhaitent pour leur pays, pour faire la paix dans leur pays et sans ingérence extérieure. Maintenant, si on a besoin d'un pays, on va le solliciter. Mais ça sera un dialogue direct entre Maliens. Nous sommes un vieux pays qui a traversé beaucoup de situations difficiles dans son histoire, qui a pu les surmonter, qui a pu aussi créer dans le passé des mécanismes de dialogue, comme ce qu'on appelle les dialogues intercommunautaires, dans le passé, qui ont pu ramener une certaine paix et stabilité dans les localités du Mali. Je ne pense pas que faire la paix entre Maliens soit au-dessus de l'intelligence des Maliens et que nous ne soyons pas prêts de faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir avoir une vision partagée de notre pays.
Et alors revenons à la question sécuritaire, les groupes terroristes semblent être plus actifs ces derniers
Quel
temps.
Quels groupes ?
Les groupes terroristes. Alors il y a beaucoup d'attaques qui se reproduisent au Burkina, au Mali. Le Mali avait dénoncé avant que l'Occident aide, ou bien la France aide ces groupes-là. Alors est-ce qu'il y a une coopération avec les services d'intelligence russes pour contrer ce soutien?
Je suis certain que nous parlons avec tous nos pays amis, que ce soit au niveau des services de renseignement. Notre dialogue avec la Russie touche à tous les segments. Donc je suis certain qu'il y a des échanges à ce niveau, parce que on ne peut pas combattre une menace ou quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc le terrorisme dont nous parlons, nous le savons. C'est vrai que le terrorisme existe partout, mais dans certains cas, nous savons que ce terrorisme est fabriqué ou sponsorisé, souvent à l'extérieur, où il est créé pour déstabiliser nos pays. Il est créé souvent pour créer des problèmes politiques, souvent pour nous divertir, souvent pour avoir le contrôle de nos matières premières. Donc nous sommes convaincus que la religion qui est mise en avant par beaucoup de groupes n'est pas la motivation principale de ces groupes. Beaucoup sont des groupes criminels, des groupes de narcotrafiquants. Donc même l'activisme dont vous parlez, je pense que avec les succès militaires qu'il y a souvent, ces groupes sont à la recherche d'actions d'éclat pour montrer qu'ils sont encore là. Mais fondamentalement, la situation a changé parce qu'il y a quelques années, nous voyons des massacres de populations à grande échelle, des villes entières décimées avec des centaines de morts. Cette situation n'existe plus aujourd'hui.
Pour l'AES, alors l'avant-projet de traité portant création de la Confédération de l'Alliance des États de Sahel a été approuvé. Alors quels sont les grands projets que les trois pays aspirent à mettre en œuvre dans le cadre de la Confédération et est-ce qu'il va y avoir une sorte de coopération entre la Russie et l'AES directement?
Moi, je pense que vous allez un peu trop vite. C'est vrai que les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Bamako pour pouvoir recommander aux chefs d'État d'aller vers une confédération qui créera, parce que aussi on ne veut pas aller dans les structures classiques d'intégration qui existent, donc on veut aller vers un modèle qui soit pratique et pragmatique, et qui soit aussi efficace. Donc c'est pourquoi il a été proposé d'aller vers un modèle confédéral qui permet une collaboration plus poussée, mais aussi qui laisse vraiment le pouvoir de décision entre les mains des États qui travaillent ensemble. Et on attend maintenant que les chefs d'État puissent entériner cela et nous nous sommes regroupés récemment entre ministres des Affaires étrangères, ministre en charge des questions de développement, comme le ministre en charge de la défense, ou même le ministre en charge de la communication, pour pouvoir nous mettre d'accord sur l'architecture institutionnelle de ce modèle confédéral qui doit maintenant être adopté par les chefs d'État, qui nous permet de renforcer notre travail sur la défense et de la sécurité, premier pilier, sur les questions de développement économique, et deuxième pilier, avec des projets intégrateurs entre les trois pays, comment favoriser la libre circulation des personnes et des biens, les projets d'infrastructure, les projets énergétiques, le commerce, etc. Et troisième pilier, maintenant, c'est la coordination de l'action politique et diplomatique de nos trois pays pour pouvoir parler d'une seule voix. Donc, ce sont ces efforts. Nous attendons que les chefs d'État puissent donner suite à cela. Et l'AES compte travailler avec tous les pays qui le désirent, mais aussi qui respectent un certain nombre de principes, qui ne vont pas s'ingérer dans les affaires intérieures, qui vont respecter la souveraineté de nos pays, qui vont respecter les choix qui sont opérés par nos pays, les choix politiques comme les choix de partenaires. Avec cela, la Russie, comme tous les pays qui ont des moyens, qui peuvent apporter une contribution, sont les bienvenus. En tout cas, il y a une nouvelle dynamique géopolitique qui est dans la région. Il est important que tous les partenaires suivent attentivement et cherchent à comprendre ce qui est en train de se passer dans cette région pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
Et les trois pays alors ont quitté la CEDEAO. Quels privilèges les peuples de l'Alliance des États du Sahel gagneront et que perdront-ils en quittant la CEDEAO?
Je pense que l'intégration régionale est une dimension essentielle de la politique étrangère du Mali. D'ailleurs, l'article 180 de la constitution actuelle du Mali est très clair que le Mali peut abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Et cette disposition existe dans toute la constitution du Mali depuis l'indépendance, de l'indépendance à aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous avons une dédicace par rapport à l'intégration. Les décisions qui ont été prises par rapport à la CEDEAO l'ont été, comme je l'ai indiqué hier, sur la base d'un certain nombre de constats qui indiquent que nous allons dans ces organisations d'abord à cause de nos intérêts et de l'intérêt de nos populations. Nous estimons aujourd'hui que ces organisations ne travaillent plus dans le sens de l'intérêt de nos populations et même constituent des menaces pour notre sécurité, pour le bien-être de nos populations. Nous en tirons les conclusions. Maintenant, nos pays restent interliés. Ce n'est pas que les pays enclavés, ou en tout cas ce qu'on appelle enclavés, sont le seul à bénéficier de cette intégration. Je pense que nous sommes interdépendants. Si un pays a un port, c'est qu'il y a un pays enclavé qui utilise ton port. Il y a des pays qui ont investi pour des infrastructures portières en comptant sur les marchés que ces pays enclavés vont. Donc nous sommes tous interdépendants et tous nos pays tirent bénéfice de cela. Et je dois aussi rappeler que les bénéfices que nos populations tirent de l'intégration, on a aussi eu des bénéfices avant cette intégration. Il nous appartiendra de trouver les voies et moyens pour préserver nos populations, pour préserver nos intérêts mutuels. Mais je rappelle encore une fois que nous avons tous des intérêts, comme chacun a des moyens de rétorsion. Donc, il est bon que nous ne nous situions pas dans cela et que nous regardons notre intérêt, l'intérêt de nos populations. Si la CEDEAO n'a pas été capable de créer un cadre pour gérer ses intérêts, il faudra que dans un cadre bilatéral ou autre, nous mettons en place d'autres types d'arrangements qui nous permettront de pouvoir commercer, de pouvoir vivre ensemble. Sur la sécurité, nous avons fait nos choix de travailler dans un autre type de cadre. Mais encore une fois, nos pays sont condamnés de vivre ensemble et de trouver les voies et moyens de le faire dans des cadres qui respectent notre souveraineté et qui respectent notre désir d'être maître de notre destin chez nous et notre désir de ne pas être les instruments entre les mains d'autres qui n'ont d'intérêt qu'à créer la zizanie pour leur propre intérêt et surtout des acteurs qui ne sont même pas de notre région. Je crois que ce sont ces problématiques qui nous préoccupent aujourd'hui et qui préoccupent aussi nos populations.
Donc, comme vous l'avez dit, alors les trois pays sont des pays enclavés. Il y a le manque de l'accès à la mer. Alors, quelles seront les principales voies d'approvisionnement et de commerce pour l'Alliance?
Vous savez, l'enclavement est une contrainte. Mais ce n'est pas un handicap. Il y a des pays comme la Suisse qui sont des pays enclavés. Pourtant, c'est un des pays les plus riches de la planète. Donc, moi, je pense que il y a un cadre qui est créé. Nous avons des liens avec plusieurs pays qui peuvent se développer. Comme je l'ai dit, il y a une interdépendance. Nous avons tous besoin les uns des autres. Mais cela ne veut pas dire que, étant pays enclavé, nous ne pouvons pas travailler entre nous pour des objectifs. Parce que même sur le plan économique, les pays côtiers dépendent aussi de certaines productions qui viennent de nos pays, comme nous dépendons aussi d'un certain nombre de choses qui viennent de ces pays. Donc, au bout du compte, je pense que la réalité et les intérêts économiques prévaudront. Et le désir des populations de travailler ensemble, le Mali a des ressortissants, le Burkina, le Niger, dans ces pays, comme ils ont des ressortissants qui sont dans nos pays également. Nous avons des positions géographiques et géostratégiques qui permettent d'assurer un certain nombre de services dans la région, dans ces pays. Donc, je pense qu'il y a une interdépendance et une réalité qui va nous obliger à travailler, à mettre en place des cadres. Mais aucun pays ne peut être contraint à rester dans une organisation. Parce que ce sont des États souverains qui sont devenus membres de ces organisations. Ces mêmes États souverains peuvent décider de faire d'autres choix si l'organisation fondamentalement ne répond pas à ses intérêts.
Bon, l'Algérie a exprimé son intention de créer une zone de libre-échange, des zones franches avec le Mali, le Niger, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Alors, le Mali est-il favorable à cette idée? Des discussions sont-elles entamées à cet égard?
Comme le disent les anglophones, we will cross the bridge when we get there. Je ne peux pas répondre à une question qui n'a pas été posée. Le Mali n'a pas été consulté. Le Mali n'est pas au courant de cette initiative. Le moment venu, quand nous serons approchés et que nous aurons des éléments d'appréciation, nous allons pouvoir nous prononcer. Mais à ce stade, je n'ai aucun élément d'appréciation de cette initiative.
Et pour les relations du Mali avec la Turquie et l'Iran, alors on voit que des visites officielles sont de plus en plus nombreuses. Pouvez-vous nous dire quels sont les domaines clés de coopération entre le Mali avec la Turquie d'une part et l'Iran d'autre part? Sur quel projet vous travaillez?
D'abord, avec ces pays comme avec tous les pays, nous travaillons sur la base de principes. Nous travaillons avec des pays comme l'Iran ou la Chine ou la Turquie ou d'autres pays qui respectent d'abord la souveraineté de nos pays et qui se mettent en position de travailler avec nous dans les secteurs que nous avons définis et qui ont aussi des intérêts autant que nous par rapport à ces secteurs. Et avec beaucoup de ces pays aussi, nous partageons la même vision d'aller vers un monde multipolaire, un monde où nos pays sont pris en compte, sont respectés et valorisés, où l'ingérence dans nos affaires intérieures est mise de côté et que l'agression militaire et autres, ou en tout cas des approches néocoloniales de nos relations sont dénoncées. Donc nous avons un certain nombre de choses en commun et nous travaillons dans ce cadre particulier avec ce pays, avec tous ces pays, comme avec la Russie. Nous avons des coopérations dans le plan, sur le plan sécuritaire, comme sur le plan aussi des échanges économiques et commerciaux.
Et si vous me permettez une dernière question sur les BRICS, c'était pas dans le questionnaire, mais j'aimerais savoir comment le Mali souhaite-t-il coopérer avec les BRICS et est-ce que vous attendez une délégation de l'Alliance des BRICS qui font des financements de projets de développement maintenant en Afrique?
Le Mali suit avec un grand intérêt et regarde avec une grande attention l'évolution des BRICS et nous nous reconnaissons dans les prises de position des BRICS, et notamment la volonté d'aller vers un monde multipolaire. Et plusieurs pays membres des BRICS, comme la Russie, sont des pays amis, sont des pays avec lesquels nous travaillons ensemble. Et nous pensons que le désir d'aller vers un monde multipolaire, un monde où les autres forces économiques, démographiques ou sociales qui ont émergé dans le monde puissent compter, un monde où nous allons vers la réforme du système multilatéral et la réforme des institutions multilatérales comme les Nations Unies, comme les institutions financières et économiques comme le FMI et la Banque mondiale qui doivent être revues pour être des institutions plus légitimes, plus crédibles, plus inclusives, plus représentatives de la diversité du monde d'aujourd'hui et pas du monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale, sont aujourd'hui des préoccupations que nous partageons. Et nous apprécions aussi l'approche économique que les BRICS sont en train de mettre en place avec l'existence d'une banque. Et ces missions BRICS seront les bienvenues au Mali pour pouvoir essayer de mieux comprendre leur travail et de voir comment nous pouvons tirer bénéfice aussi d'une appartenance sous une forme ou une autre de cet ensemble qui cherche aussi à créer un pôle économique et démographique mondial qui compte peser justement sur la réforme des institutions multilatérales.
C'était Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il est notamment revenu sur les projets de coopération entre Moscou et Bamako, mais aussi sur les prises de position des BRICS en faveur d'un monde multipolaire. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Africa Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 99.5 FM. De hauts gradés allemands ont discuté récemment de préparatifs en vue d'organiser une attaque sur le pont de Crimée avec des missiles Taurus. Oui, mais voilà, ce funeste projet a capoté. La Russie a intercepté cette conversation. La rédactrice en chef du groupe Rassia Sivonia, dont Spoutnik Afrique fait partie, Margarita Simonian, a depuis dévoilé le contenu de cette discussion. Je vous propose d'écouter un extrait de la conversation des officiers allemands.
Je suis venu à la conclusion qu'il y a deux cibles intéressantes, un pont à l'est et des dépôts de munitions qu'on peut atteindre. Le pont à l'est est difficile à atteindre. Ses supports sont une cible assez petite, mais le Taurus peut le faire. Il peut aussi toucher les dépôts de munitions. Si nous prenons tout cela en compte et le comparons à la quantité de Storm Shadow et de HIMARS utilisés, alors j'ai trois itinéraires et j'aimerais demander, notre cible est-elle le pont ou les dépôts militaires? Est-ce réalisable avec les limitations actuelles de RED et de Patriot? Et je suis arrivé à la conclusion que cela était réalisable. Le facteur limitant est le nombre de Su-24 qui leur reste. Nous parlons d'un nombre à un chiffre.
C'est clair.
J'ai souligné quelques points déterminants et j'ai décidé que c'était réalisable. Comment enseigner aux Ukrainiens tactics, techniques et procedures afin qu'ils puissent lancer ces trucs? Pour un pilote, cela prendra une semaine. Je pense qu'il serait utile de penser à la planification des tâches et à la planification centrale. La planification prend normalement 2 semaines, mais s'il le faut, on peut le faire plus rapidement.
Si le ministère de la Défense allemande a refusé de faire de commentaires, plusieurs responsables de la Bundeswehr ont rapporté que l'enregistrement en question était bel et bien authentique. Une enquête a été ouverte par le contre-espionnage allemand afin de déterminer comment cet échange entre officiels allemands a pu être intercepté par la Russie. Au micro de Spoutnik Afrique, Alain Corvez, ancien colonel de l'armée française, nous a livré ses analyses de cet événement.
Comment analysez-vous ces révélations et à quoi les démarches de l'Occident pourraient-elles mener le monde ?
Nous sommes dans une période cruciale de l'évolution du conflit entre en fait, les États-Unis et la Russie, en passant par l'Ukraine, car les causes profondes de ce conflit sont que les États-Unis ont complètement subjugué l'Europe occidentale, qui leur obéit au doigt et à l'œil, et leur but est d'empêcher qu'il y ait une coopération géopolitique, commerciale, énergétique entre la Russie et l'Europe occidentale, ce qui serait dans la logique géopolitique et dans la logique des choses, mais qui pourrait présenter, d'après les États-Unis, une menace à leur domination mondiale. Donc, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est le but des États-Unis d'Amérique. Et ils utilisent pour ça, c'est même leur but depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais au départ, c'était contre l'URSS, maintenant c'est contre la Russie. Mais ils utilisent pour ça des représentants que sont l'Ukraine pour attaquer la Russie. Or, il se trouve que sur le plan militaire, cette guerre a été perdue. Car la contre-attaque ukrainienne dont on a parlé toute l'année dernière, à partir du printemps et de l'été, a échoué complètement. Et désormais, et depuis quelques jours, les Russes ont repris l'offensive. Donc, la plupart des pays de l'OTAN, et notamment les États-Unis, ont compris que la guerre était perdue. Je pense que les États-Unis se préparent à lâcher l'Ukraine et à lâcher Zelensky, et en disant aux Européens, débrouillez-vous avec ce problème qui est un problème européen. Nous, on a d'autres chats à fouetter, notamment la Chine, et on va plus s'occuper de ça. Donc, dans cette situation, les Européens sont en difficulté et le président Macron, le premier, qui veut se montrer comme le plus européen de tous les Européens. D'ailleurs, je pense que son projet ultime après d'avoir été président de la République française, c'est d'être président d'une République fédérale européenne. Et donc, il a versé de l'huile sur le feu, car le projet de détruire l'armée russe et de détruire l'économie russe a échoué complètement, et il voit bien que les Américains vont commencer à les lâcher, et donc lui, mais les autres aussi, sont très inquiets. Je veux dire Scholz, les Britanniques bien sûr, hein, et puis Scholz en Allemagne en particulier, sont très inquiets, et l'habitude du président français, c'est de renchérir sur le plan verbal. Et souvent, il n'y a pas de choses qui se concrétisent ensuite. Néanmoins, il a fait la déclaration dont le monde entier a parlé, pour la dénoncer d'ailleurs, hein, puisque la plupart des alliés dans l'OTAN de la France ont dénoncé ces paroles qui n'étaient pas sérieuses, qui n'avaient pas été prononcées lors de la réunion des 20 pays qui avait lieu à Paris, ainsi de suite. Vous connaissez ça.
Vous parlez de son intention d'envoyer des soldats
français. De dire qu'il ne fallait pas écarter l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Bon, ça a soulevé un tollé en France, mais dans le monde entier, parce que même le chancelier Scholz, puisque nous parlons de l'Allemagne, a dénoncé ça. Et Stoltenberg pour l'OTAN, et le premier ministre néerlandais, et enfin, tous les grands responsables de l'OTAN ont dénoncé ces paroles qui n'étaient pas raisonnables. Concernant l'Allemagne, puisque c'est au sujet de l'Allemagne que vous interrogez, l'Allemagne a été aussi très en pointe pour soutenir l'Ukraine et combattre la Russie à travers l'Ukraine. Et il y a eu des phases différentes dans l'action allemande contre l'Ukraine, qui sont passées par des étapes successives, comme on va fournir des léopards, mais avant de fournir les léopards, on avait fourni autre chose. Ensuite, on a fourni des missiles, mais encore jusqu'à aujourd'hui, le chancelier allemand, refuse de donner des missiles Taurus, qui sont des missiles à longue portée. Mais dans la conversation que vous mentionnez, que la directrice en chef de Sputnik a indiqué, il semblerait que des conversations qui ont fuité de hauts responsables allemands auraient discuté de fournir ces Taurus, une centaine, et pour en particulier détruire le pont de Crimée. Alors, comme je vous ai envoyé à l'instant là, on sait déjà que les Britanniques ont participé aux opérations de destruction de navires de la flotte de la mer Noire russe, de navires russes de la mer Noire, La déclaration britannique n'est pas surprenante, parce que tous les experts militaires se doutaient bien que les Ukrainiens n'étaient pas capables tout seuls de mettre en œuvre tous les armements sophistiqués qu'on leur a donnés, et qu'il fallait bien qu'il y ait des techniciens et des spécialistes britanniques, allemands, voire français pour les Césars, par exemple, ou les Scalps, qu'il y avait des techniciens sur le terrain qui participaient à ces opérations contre la Russie à partir d'équipements qui avaient été livrés à l'Ukraine. Et en particulier, et les Britanniques s'étaient en pointe dans ce domaine, dans le domaine du guidage et des interceptions et du guidage des missiles. Et on a la preuve par la déclaration de l'amiral britannique là, que les Britanniques ont participé directement à des attaques contre des navires russes. Concernant ce qui a été dit par les officiers allemands, ça ne me surprend pas du tout, puisque toute la Bundeswehr est mobilisée pour aussi soutenir l'Ukraine. Mais je pense qu'on est à un tournant dans la guerre, parce que il faut pas être un grand expert pour voir que les Américains ont l'intention de se retirer. Le Congrès n'a toujours pas donné son accord aux 60 milliards supplémentaires que Biden a demandé, et ça fait plusieurs semaines maintenant que ça dure. Donc je pense qu'on se rapproche de plus en plus du moment où Biden va lâcher Zelensky et dire aux Européens « débrouillez-vous avec ce boulet ». Et il va même nous accuser, nous Européens, d'être responsables de cette gabegie. Mm-hmm. Comme il l'a fait en Afghanistan, et c'est l'habitude des États-Unis de lâcher leurs alliés sans ménagement. Donc, pour revenir à cette histoire des taux russes, moi, je ne suis pas surpris que cette conversation ait eu lieu entre ces hauts responsables allemands. Mais je suis convaincu que, bon, bien sûr, c'est une menace supplémentaire pour la Russie, mais la Russie est informée, ils ont des moyens de détection, et je pense qu'ils sauront trouver les parades.
Et cette révélation intervient également alors que Vladimir Poutine a rappelé à l'Occident que la Russie, elle aussi, dispose d'armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire, ce qu'on avait évoqué avec vous. Et dans ce contexte, il a mentionné un réel risque nucléaire. Mais pourquoi l'Occident ferme-t-il les yeux sur ces avertissements, si on peut dire comme ça? Et jusqu'où peut-il aller dans son escalade?
Mais, si vous voulez, nous sommes dans une phase très délicate des équilibres mondiaux à cause de la fin de la domination américaine. Les États-Unis sont en train de s'écrouler pour des raisons intérieures, parce qu'ils ont des disputes internes de plus en plus aiguës entre démocrates et républicains, mais même au sein des républicains et au sein des démocrates, il y a des différences, mais radicales de point de vue, qui font qu'ils sont en pleine décomposition politique. Mais ils ont également des problèmes raciaux, des problèmes économiques. Leur dette phénoménale commence quand même à les atteindre. Des problèmes avec les voisins immédiats comme le Mexique, par exemple. Bon, ça sont des problèmes sur leur continent américain. Mais ils ont également des problèmes extérieurs, puisque toutes leurs interventions extérieures ont été perdus, ils ont dû partir, fuir honteusement, je remonte pas jusqu'au Vietnam, mais d'Afghanistan plus récemment. Leur intervention en Libye a été une catastrophe. Leur intervention en Irak, ils ont des bases là-bas maintenant qui seront bombardées tous les jours. Ils sont partout attaqués. Ils ont monté une coalition pour lutter contre le Yémen dans la mer Rouge. Ils sont en pleine déconfiture parce que leurs bateaux, les bateaux britanniques, il y a même un bateau allemand là, qui n'a pas réussi non plus à passer. Enfin, bon, c'est un échec également de la coalition anti-Yémen. Et puis surtout, il y a l'échec de Palestine où la situation actuelle inadmissible aux yeux de la communauté internationale, la vraie communauté internationale, hein, parce que jusqu'à présent, les États-Unis et les Européens disaient « nous sommes la communauté internationale ». Mais non, c'est pas du tout. La communauté internationale, elle est beaucoup plus vaste et elle est maintenant majoritairement opposée à cette vision égocentrique et égoïste de l'Occident. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis sont critiqués partout car la plupart des pays et la plupart des peuples savent que les crimes qui sont commis actuellement par Israël contre les Palestiniens sont voulus par les États-Unis d'Amérique. La preuve en est d'ailleurs que sont eux qui fournissent les Israéliens sont à court d'armement et les Américains leur fournissent les obus pour tuer les Palestiniens. Donc tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui sont responsables des massacres et du génocide qui se produit en Palestine. Donc leur code d'amour, si je puis dire, dans le monde est en perdition complète parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé en Palestine a montré ce qu'était vraiment le sionisme et le sionisme soutenu par les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique sont en train, à mon avis, d'exploser et d'imploser. Et je pense que ils font comme l'œuf à l'abattoir qui est en train d'être tué. Ils donnent des grands coups de pied, mais ils sont en train de mourir. Je n'irai pas jusque-là pour les États-Unis d'Amérique, qui restera sûrement une grande puissance, mais une grande puissance très affaiblie et qui ne sera plus en mesure de dicter ses volontés au reste de la planète. Donc, l'affaire ukrainienne, pour y revenir, automatiquement est une autre étape de la décadence américaine. Les gouvernements européens sont tous soumis aux États-Unis d'une façon mais ignoble même. Et donc, il y a des discours incroyables. Moi, j'ai sous les yeux Le Figaro, qui est un grand journal soi-disant de droite, mais on ne sait plus très bien de quel bord il est. En tout cas, il soutient la bourgeoisie française, dirons-nous. Eh bien, il y a une photo sur la première page du président Poutine, et voilà ce qui est marqué. Le discours belliqueux de Poutine envers les Occidentaux. Alors, moi, j'ai expliqué à ceux qui me montraient ce journal, j'ai dit, mais ils inversent la réalité. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est belliqueux? C'est évidemment l'Occident qui est belliqueux vis-à-vis de la Russie. Donc, il y a, si vous voulez, le drame, et je reviens à ce que je vous disais, c'est l'écroulement de l'Amérique entraîne le fait que les gens ne sont plus rationnels. Ils prennent des décisions, ils font des déclarations et ils font des actes, hélas, également, qui ne sont pas rationnels. Ce qui se passe en Palestine n'est pas rationnel, mais ce qui se passe en Ukraine n'est pas rationnel non plus. Et donc, ce monde est en train de s'écrouler, mais il s'écroule dans la douleur. La situation est en train de basculer complètement dans l'équilibre des forces du monde. C'est-à-dire que les États-Unis, qui dominaient la planète à partir de l'écroulement de l'URSS, sont en train de basculer dans un monde qui n'est plus dominant. Les BRICS et tout ce que proposent les alliances entre Russie, Chine, Inde, puis bien d'autres pays, maintenant ils sont une dizaine, on s'attend à ce qu'il y en ait une trentaine, mais l'Iran également, qui joue un rôle fondamental dans ces basculements, parce que l'Iran est d'une grande sagesse et il constitue un axe de la résistance à l'impérialisme américain très très fort. Donc le fléau de la balance a largement basculé maintenant de l'autre côté. Et donc le côté américain et occidental, c'est-à-dire européen, qui suit aveuglément les États-Unis, n'a plus de raisonnement stratégique, il n'a plus de rationalité dans son analyse des événements et il fait des déclarations absurdes et il a également des attitudes qui sont absurdes. Le fait de continuer à dire « on va soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire », c'est totalement absurde. Il n'y a aucun expert militaire sérieux qui peut dire que ça a une chance d'aboutir. Mm-hmm. Mais néanmoins, ça va continuer à faire des morts de pauvres Ukrainiens qui sont utilisées. Ça, c'est les États-Unis, vous savez, resteront marqués dans l'histoire par les crimes horribles qu'ils commettent dans le monde. Hein. Il n'y a pas qu'en Palestine, parce qu'en Ukraine, c'est aussi de leur faute. S'il y a plein d'Ukrainiens qui sont en train de mourir, c'est absolument inadmissible. Et il y a des Russes aussi, bien sûr, mais en moins grand nombre. Mais il y a quand même énormément d'Ukrainiens qui meurent tous les jours. Donc, on est dans un monde tragique où la décadence et la chute de la puissance américaine entraîne des dégâts très grands.
Et vous parlez de la décadence de la force américaine, mais est-ce que l'Occident réalise-t-il lui-même qu'il n'est pas plus en position de force actuellement ?
Et l'Occident est dans la même absurdité que les États-Unis d'Amérique. Si vous voulez, aux États-Unis d'Amérique, il y en a un qui réalise, c'est Trump. Bon, moi, j'ai pas d'admiration particulière pour Trump, que je trouve assez vulgaire, mais il a une qualité, c'est qu'il est pragmatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'idéologie complète comme Biden. Biden, c'est pas Biden, hein, c'est l'appareil qui soutient Biden. Biden, le pauvre, il est plus capable de décider grand-chose, mais c'est son appareil qui est complètement absurde et dans l'idéologie, les États-Unis doivent guider le monde. Trump, il est plus réaliste, il a compris qu'il fallait s'adapter aux nouvelles, à un monde multipolaire. Et donc, il sera certainement plus réaliste de ce côté-là. Ou il fera certainement encore pas mal de bêtises, parce que ses positions vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'Iran... Mais peut-être qu'il est capable, du fait de son pragmatisme, d'évoluer sur ces deux derniers sujets. Mais donc, les États européens, eux, ne réfléchissent plus. Ils n'ont plus de raisonnement stratégique. On est complètement soumis à la stratégie américaine.
C'était Alain Corvin, ancien colonel de l'armée française pour Spoutnik Afrique. Il a analysé l'interception d'une conversation de militaires allemands par la Russie sur les préparatifs d'une attaque contre le pont de Crimée avec des missiles Taurus. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le territoire Sirius, situé sur le littoral russe de la mer Noire, accueille le Festival Mondial de la Jeunesse. Spoutnik Afrique est partenaire média de ce projet. Plus de 20 000 personnes venues de 188 pays participent à des événements programmés sur 55 sites du territoire de Sirius. Et le président russe a adressé un message vidéo aux jeunes participants à l'ouverture de ce festival que je vous propose d'écouter tout de suite.
L'unité multinationale est pour nous la valeur la plus importante et elle détermine largement les principes selon lesquels notre État et notre société vivent et se développent aujourd'hui. Je parle de l'égalité et de la justice, des traditions d'une famille forte et de l'assistance mutuelle, du service à la patrie et de la responsabilité de son destin. Je sais que ces valeurs sont partagées par la majorité absolue des habitants de la Terre. C'est pourquoi nous devons les chérir et les protéger ensemble, réaliser ensemble nos rêves, nous aider les uns les autres à améliorer la vie de milliards, je tiens à le souligner, de milliards d'êtres humains. Ensemble, nous devons travailler pour les générations futures, lutter contre la pauvreté et le terrorisme, les maladies et le trafic de drogue, préserver la richesse naturelle unique, le patrimoine culturel, la beauté et la diversité de la planète. Dans un tel monde, il n'y a pas de place pour le racisme, les dictats, les doubles standards et les mensonges, et les gens sont libres de parler leur propre langue, de suivre la foi et les traditions de leurs ancêtres.
De jeunes Africains ont répondu présents dans le territoire de Sirius pour participer à ce festival mondial de la jeunesse. Ils se sont confiés à notre correspondant sur place. Écoutons-les tout de suite.
C'est un événement vraiment fantastique, car de nombreuses personnes viennent des quatre coins du pays, en particulier des jeunes de moins de 35 ans. C'est donc une excellente occasion de nouer des liens pour l'avenir, et c'est une très bonne option pour nous de nous rencontrer ici.
Il y a plus de 20 000 jeunes ici. Je pense que cela fait beaucoup de monde, et d'après ce que j'ai lu, c'est un record pour le nombre de personnes qui ont postulé pour cela jusqu'à présent.
Il s'agit d'un festival de la jeunesse où différents pays se réunissent pour essayer d'améliorer la bonté et la socialisation du monde et de l'Afrique elle-même. Nous faisons donc partie de ce programme et nous organisons également notre propre spectacle qui comprend du théâtre, de la danse et d'autres types d'activités artistiques.
La Russie n'est pas isolée et elle se porte bien au sein de la communauté mondiale. À ma connaissance, la porte de la Russie est ouverte. Les Russes sont coopératifs, ils sont prêts à vivre ensemble et ils sont solidaires. C'est vraiment fascinant de travailler avec la Russie et nous sommes solidaires de la Russie.
Oui, nous essayons de promouvoir l'unité. Le monde se rassemble parce que c'est un programme pour la jeunesse, n'est-ce pas? Nous essayons de représenter ou de prêcher la paix, principalement parce que nous sommes tous un seul peuple, un seul amour et une seule unité, n'est-ce pas? Nous essayons donc de prêcher l'unité. Vous savez, nous sommes différents, mais en même temps, nous sommes le même peuple. Je veux dire, vous avez deux mains, j'ai deux mains. L'humanité est donc quelque chose de magnifique dont il faut parler.
Au micro de Spoutnik Afrique depuis le territoire Sirius, Emma Kantema Gaomas, vice-ministre namibienne des sports, de la jeunesse et du service national, nous a partagé ses impressions de cet événement.
Merci d'avoir rejoint Spoutnik Afrique et bienvenue au Festival mondial de la jeunesse, ici sur le territoire Sirius. Commençons par vos premières impressions.
Je pense que c'est une bonne plateforme. Et l'impression est que c'est vraiment une bonne occasion pour la Russie d'accueillir des jeunes du monde entier. Nous avons vu l'année dernière que la Russie a accueilli le sommet Afrique-Russie. C'est donc à partir de là qu'elle a décidé d'accueillir ce Festival mondial de la jeunesse. Je pense donc qu'il s'agit d'une occasion de renforcer nos relations avec la Russie pour faire avancer le développement du continent.
Comment voyez-vous les jeunes façonner l'avenir de l'Afrique et du monde? Quels sont les défis et les opportunités incroyables auxquelles vous êtes confrontés?
L'Afrique est l'un des continents les plus jeunes. Nous comptons plus de 60% de jeunes. Il est donc essentiel que nous investissions dans la jeunesse, car ce sont eux qui, en fin de compte, façonneront et dirigeront le développement du continent. Il est donc très important qu'en tant que décideurs politiques, nous ayons des interventions ciblées qui permettent aux jeunes de devenir productifs et de contribuer à l'économie du continent.
Je vous remercie. Selon vous, quel est l'objectif principal de l'organisation du Festival mondial de la jeunesse en Russie cette année? Quel est le message qu'ils cherchent à faire passer?
Le message est vraiment pour nous de créer un réseau de partenariats, car c'est grâce aux partenariats que nous pouvons atteindre nos objectifs. Nous considérons donc qu'il s'agit d'un partenariat dont nous pouvons tirer parti pour développer nos économies, pour créer des réseaux en termes d'exportation et de commerce. C'est donc une bonne opportunité pour les jeunes. Au-delà du partenariat, il s'agit de renforcer les capacités. J'encourage vivement les jeunes à participer aux sessions, car il s'agit d'un programme amusant et plein d'énergie. Ils doivent donc participer de manière interactive avec les décideurs politiques et retourner dans leur pays avec de nouvelles connaissances, des compétences et un réseau qui leur permettront de devenir des citoyens meilleurs et plus productifs.
Quelle est votre vision du rôle futur de l'Afrique dans la communauté internationale?
Je veux que l'Afrique ne se contente pas d'exporter ses ressources naturelles, mais qu'elle cherche plutôt à ajouter de la valeur à ses ressources naturelles. L'Afrique est dotée de ressources naturelles, et si nous pouvons y ajouter de la valeur, si nous pouvons les transformer, nous pourrons créer plus d'emplois. Car l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est le chômage des jeunes. Et pour nous, nous ne pouvons mettre fin au chômage des jeunes que si nous leur offrons des opportunités.
Comment pensez-vous que la Russie puisse aider les pays africains dans ce domaine?
Je me réfère à nouveau au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu l'année dernière. Un certain nombre de résolutions ont été adoptées à cette occasion. Si nous sommes en mesure de les mettre en œuvre, de les approfondir et de leur donner un sens, je suis certain que ce partenariat sera renforcé. Et nous sommes vraiment reconnaissants de l'assistance et du soutien que nous recevons de la Russie.
C'était Emma Kantema Gaomas, vice-ministre namibienne des sports, de la jeunesse et du service national pour Spoutnik Afrique. Elle nous a partagé ses impressions sur le Forum international de la jeunesse qui se tient actuellement dans le territoire Sirius. Mesdames, messieurs, Radio Sputnik Afrique en maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai prochainement aux commandes d'un nouveau numéro de Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Sputnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Sputnik Afrique.